Nous ouvrons la parole dans la Genèse au chapitre 32. Genèse 32. J'aimerais vous commenter ce matin un passage de la vie de Jacob. Mais bien sûr, il faut un tout petit peu quand même expliquer le contexte. Mais d'abord, faisons la lecture. Verset 25. Genèse 32, 25. Jacob resta seul. Alors, un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu ne me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme répondit, « Jacob ne sera plus ton nom, qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. » Le soleil se levait, lorsqu'il passa Pénuel, Jacob boitait de la hanche. Genèse 32, versets 25 à 32. L'histoire de la vie de Jacob, ou la vie des patriarches tout court, est très instructive pour nous montrer que c'était des gens normaux, des gens comme vous et moi, des gens qui avaient leur vie de tous les jours, leurs problèmes, leurs défis, leur caractère. Ils avaient des choses avec lesquelles on peut tout à fait s'identifier, même si ce sont des récits qui remontent à plus de 3500, 4000 ans. La vie des patriarches est extrêmement intéressante, et particulièrement la vie de Jacob. Vous vous souvenez que les parents de Jacob, qui s'appelaient Isaac et Rebecca, c'était un couple qui a été formé de manière extraordinaire par la direction de Dieu. Et dans Genèse 24, vous lirez de quelle manière ils ont été conduits ensemble. Et c'était un grand amour, mais on dirait qu'avec le temps, il y a eu quand même des petits ennuis qui sont arrivés dans le couple, au point que nous retrouvons Isaac et Rebecca à un moment donné, qui semblent moins communiquer. Bien sûr, il y avait une différence d'âge assez importante entre eux, et puis ils ont dû attendre, si vous lisez le récit, ils ont dû attendre 20 ans pour avoir leur premier enfant, mais en fait c'était des jumeaux, Jacob et Ésaü, qui sont arrivés après 20 ans, et il nous est dit dans la Bible que Isaac a prié pour avoir un enfant, et Dieu lui a répondu. Alléluia! Pouvons-nous prier pour avoir des enfants si le problème devrait être là? Eh bien, dans l'Église, nous avons plusieurs couples qui ont été exaucés suite à la prière pour recevoir un si précieux cadeau qu'un enfant. Et nous voyons dans cette histoire de Jacob que la famille est composée de 4 personnes, papa, maman et les 2 jumeaux, et chacun a son préféré. Est-ce que c'est bien d'avoir des petits préférés? Ah, vous avez la réponse. Et vous auriez dû dire ça à Jacob, à Isaac à l'époque. Dommage, vous n'étiez pas là pour lui dire, écoute Jacob, Isaac, ce que tu fais, c'est pas très très bien. Donc Isaac avait son petit préféré, c'était Ésaü, un chasseur, c'était un garçon qui bougeait, qui aimait se confronter avec les éléments de la nature. Et Jacob était tranquille, et puis il était du côté de sa maman. Et puis, nous voyons, la Bible n'insiste pas sur tous les détails de la vie, mais elle insiste toujours sur des choses importantes. La Bible insistera sur le fait que Jacob voulait la bénédiction, Ésaü la voulait aussi, mais en réalité, Jacob l'a eue avant son frère, et ça a posé un grand problème, parce que la Bible dit que Ésaü était profane, il n'était pas intéressé aux choses spirituelles. Cependant, il savait une chose, il savait au fond de lui que partir dans la vie en tant que chasseur et construire sa famille, etc., avoir du succès, avoir un avenir tracé, s'il n'avait pas la bénédiction de papa, il lui manquerait quelque chose. Il le savait. Il était profane, il n'était pas spirituel. Et le fait que Ésaü va être privé de la bénédiction va le mettre dans une fureur impressionnante, point qu'il veut tuer Jacob, et La maman va dire, donc Rebecca va dire à Jacob, il faut t'en aller rapidement. Et Jacob va s'en aller suite à sa nature de trompeur. Il est rusé, il est malin, il sait tricher quand il faut, il sait saisir les opportunités, il est opportuniste. Vous connaissez des gens opportunistes ? Saisit des occasions, il surfe sur les choses qui sont juste une porte ouverte comme ça, et il est comme ça, et il va avoir la bénédiction, c'est vrai, c'est lui qui l'aura, mais il aura aussi les problèmes. Il aura aussi les problèmes. Il va donc s'en aller, laissant derrière lui une famille complètement divisée entre papa et maman. C'était déjà pas très brillant à l'époque, à la fin de la vie d'Isaac surtout. Et il va laisser son frère en colère, violente colère, et il s'en ira. Donc il n'est pas en bonne stature spirituelle. Il n'est pas en pleine forme, mais la Bible nous dit que dans la Genèse chapitre 28 et au verset 15, dans la fuite de Jacob, dans ce moment où il va partir, il va à peine avoir le temps de ramasser ses deux, trois affaires. Il ne prend même pas de bagages avec lui. Il va fuir dans la maison de son oncle Laban. Et en cours de route, à la fin de la première journée de fuite, il est tout seul. Il va s'endormir dans un endroit quelconque. Il se couche sur une pierre, nous dit le texte. Et là, il va recevoir un rêve. Il verra les anges de Dieu qui montent et qui descendent sur une échelle. Mais il recevra la parole qui est au verset 15. « Voici, dit Dieu, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. » J'aimerais que vous puissiez souligner cette parole dans votre Bible. Imaginez, Jacob n'est pas du tout au haut de sa forme spirituelle. Il est plutôt en fuite, comme disent les Anglais, « a mess » à la maison. Il a laissé un bazar à la maison. Il n'y a plus personne qui s'entend. Il est en fuite et pourtant Dieu lui parle. Ça, je l'appelle la grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous parle même quand on est très bas et quand on a fait des bêtises et quand on a différentes choses sur sa conscience. Dieu parle et il va lui dire quelque chose de merveilleux. « Jacob, je te garderai. Un jour, je te ramènerai. » Et surtout cette parole, je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai pas accompli ce que j'ai prévu pour ta vie. Mes amis, ce matin, quel que soit votre niveau spirituel, quelle que soit l'étape où vous êtes, Dieu dit, la bonne œuvre que j'ai commencée, je vais l'achever. Ce que j'ai commencé, c'est compliqué ta vie, c'est très compliqué, mais ce que j'ai commencé, j'arriverai à dénouer tout ça et je vais réussir mon plan avec ta vie. Ça me fait du bien de savoir ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une élection sur sa vie. Regardez avec moi dans Romains 9, quand il est question de toute l'apologétique de Paul sur Israël, il va reparler de cette situation. Romains 9, 11 à 13, il nous est dit ceci. « Quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, je souligne ça, par la seule volonté de celui qui appelle, il est dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Ça paraît assez violent. Pourquoi est-ce que Dieu a aimé Jacob ? Parce que Jacob, tout au long de son périple, n'a jamais perdu la crainte de Dieu. Il a toujours voulu garder quelque part la communion avec Dieu. Il a toujours voulu saisir et ne jamais perdre les choses spirituelles. Il a eu un périple et un parcours impressionnant, incroyable, des hauts et des bas, des situations rocambolesques, mais il n'a jamais perdu la communion avec son Seigneur. Frères et sœurs, quel que soit votre parcours, avec ses hauts et ses bas, avec les choses prévues et les choses imprévues, ne perdez jamais la crainte de Dieu et ne perdez jamais la communion avec Dieu. C'est pour ça que Dieu a aimé Jacob, parce qu'il y avait une valeur en lui qui a touché le cœur de Dieu. Il a dit, « Quoi qu'il m'arrive, je garderai le contact avec le Seigneur. » je ne l'abandonnerai pas. Il va garder précieusement. Et Jacob a été toujours ouvert pour se laisser interpeller par Dieu. Il n'a pas été fermé en disant « j'ai tout compris maintenant, je me suis bâti mon petit univers spirituel, j'ai reçu la bénédiction et puis on n'a plus rien à m'enseigner ». Il a toujours été ouvert à être touché par le Seigneur. Et l'élection, ce que j'aime dans ce texte de Romains, c'est que l'élection, c'est le choix souverain de Dieu sur la vie de Jacob. Et ce choix souverain ne dépendra pas de ses œuvres, ne dépendra pas de tous les coups tordus qu'il a fait et aussi qu'il a ramassé. Ça ne dépendra pas des hauts et des bas et de tout ce qu'il a réussi ou raté. L'élection dépend de celui qui choisit. Et Dieu choisit, et c'est son choix à lui, c'est la volonté de celui qui appelle, et cela ne dépend pas de nos œuvres. C'est l'élection. J'ai parlé plusieurs fois de l'élection dans les messages sur l'appel de Dieu sur notre vie. Et la parole nous dit dans Éphésiens, en lui, nous sommes élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Le but de Dieu, c'est que nous soyons choisis pour devenir saints et être irréprochables. Son but va réussir. Son but va réussir. Rien ne l'empêchera d'aller jusqu'au bout de son élection. Rien ne l'empêchera de ce que son objectif soit atteint. Son objectif sera atteint car le Seigneur nous a choisis et le Seigneur va réussir ce qu'il a commencé. Au chapitre 31, verset 3, nous voyons que les années ont passé et en fait, si vous lisez tout le texte, 28, 29, 30, 31, 32, vous avez remarqué qu'en fait, Jacob est resté 20 ans loin de la maison. 20 ans. Il est resté chez Laban, il a construit sa famille. Il avait vu dans son rêve des anges monter et descendre, mais quand il arrive chez Laban, il a vu un ange sans ailes. Il a vu un ange avec des beaux cheveux et des beaux yeux. Il est tombé directement amoureux d'elle. C'était sa belle Rachel. Mais il a dû travailler quand même 14 ans pour la voir. Parce que aussi roublard, aussi rusé, malin et opportuniste qu'était Jacob, il a dû se mesurer à plus fort que lui. Il a dû vivre pendant 20 ans avec quelqu'un qui était de la même trempe que lui. Et il a été lui aussi roulé pas mal dans la farine avec Laban. Donc, il va dire à la fin, lorsque la situation va devenir tendue avec Laban, et qu'il réalise qu'il ne peut plus vraiment vivre avec lui. Il est maintenant, il a Rachel, mais il a aussi dû prendre Léa, parce que voilà, il s'est fait avoir. Il a dû prendre les servantes en plus, donc il a un tas de femmes à la maison. Bon, il faut faire avec. Hein. Et puis, il faut essayer de surnager dans tout ça. Mais ça va, je me plains pas. Hein. Et puis, il a donc un tas d'enfants qui sont là, mais la cohabitation n'est plus possible. Et puis, le Seigneur va lui dire, retourne chez lui, retourne chez toi. Retourne au pays de tes pères et dans ta patrie, et je serai avec toi. Et au verset 13, il va répéter ça encore une fois. Maintenant, lève-toi, quitte le pays et retourne au pays de ta naissance. Donc, il va réentendre la voix de Dieu pour retourner chez lui. Durant ce temps, il a été effectivement béni. Vous savez, il a désiré la bénédiction et il l'a reçue. Il l'a reçue. C'était pas par les moyens très clairs, c'était pas très juste. Il a quand même triché pour l'avoir, mais il la voulait tellement qu'il l'a eue. Vous savez, des fois, nous demandons des choses à Dieu, nous demandons tellement que Dieu, pour finir, il nous les donne. Et il y a un résultat parce qu'on les veut, mais ce n'est pas du tout toute la volonté de Dieu. Et comme je vous allais voir dans la suite, la vraie bénédiction va venir, mais elle ne sera pas sur le chemin de sa nature humaine d'essayer de l'avoir par les moyens faciles, en trichant et en supplantant les autres. Et ça va venir autrement. Et donc, il sera béni, il aura une grande famille, il aura aussi des grandes propriétés, des grands troupeaux, etc. Il a gagné, réussi sur plusieurs fronts, il est habile, profiteur, rusé, etc. Mais Jacob, au fond de lui, il sait qu'il a un problème. Et ce problème, ce n'est pas Laban. Son problème, ce n'est pas Ésaü. Son problème, ce n'est pas les autres. Il réalise que le problème se trouve en lui-même. Il réalise que son plus grand ennemi, quelque part, s'appelle Jacob. Ma nature, c'est ça mon problème. Et il le sait. Sa nature n'a pas produit que des belles choses. Il a laissé beaucoup d'ardoises, des conflits, etc. Son véritable ennemi, c'est lui-même. Et il sait, ça ne peut pas continuer toujours comme ça. Je ne peux pas toujours continuer. Ça va, ma vie va pas mal. Elle est quand même pas mal réussie. Mais au fond de lui, il sent que l'Esprit de Dieu lui dit, j'ai autre chose pour toi. J'ai pas fini mon travail en toi. Je t'ai déjà gardé, je t'ai déjà béni, tu es déjà sous ma grâce, mais mon travail va aller maintenant en profondeur, il va aller plus loin. Et tu vas devoir, mon cher Jacob, te confronter à ta propre nature. Écoutez ce que dit encore la parole de Dieu, Romains 8, verset 6. Les tendances de la chair, car c'est ça le problème, la chair. Les tendances de la chair, c'est la mort. Les tendances de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et Jacob manquait de paix, il n'était pas tranquille réellement. Romains 6, verset 7. Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, et ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Et Jacob réalise qu'il ne plaît pas à Dieu complètement. Il y a des choses qui ne jouent pas dans sa vie. Et ces choses, c'est sa nature qui pose problème. Et pourtant, maintenant, il rentre chez lui. Il a peur, il appréhende. Il va devoir retourner là où il a laissé un gros problème. Ça vous est déjà arrivé de devoir retourner là où vous avez quelque chose de non réglé? Retourner dans un endroit, dans un lieu, avec des contacts, des personnes, dans des familles, des parentés, que sais-je, où vous avez laissé un problème. Ce n'était pas vous là le responsable entièrement, mais en partie peut-être quand même. Il doit retourner là où il y a un problème. Il approche la frontière et il entend parler de son frère Ésaü. Et il pense à son frère. 20 ans se sont passés. Et il dit, mais mon frère, il n'a rien oublié du tout. Il est en marche pour me battre, pour me tuer, parce qu'il avait projeté de me tuer il y a 20 ans en arrière. Il n'a pas changé d'avis. Sa colère est toujours aussi vivante qu'autrefois. Et Jacob a peur de se faire complètement manger par son frère, de se faire envahir et de payer maintenant la facture. En réalité, son frère était, comme le texte va le montrer plus tard, était tout à fait disposé autrement. Son frère va l'embrasser, va l'accueillir, quelque chose d'incroyable. Mais cela montre que le passé ne peut pas être évacué comme ça d'un coup de main, d'un coup de main sur la table. On ne peut pas effacer notre passé comme cela, parce que nous avons en nous quelque chose qui s'appelle la conscience. La conscience. Et la conscience va rappeler en 20 secondes des choses qui se sont passées il y a 20 ans. Et tout ce qu'il a fait, il y avait aussi le fait qu'il avait pris le droit d'aînesse de son frère, c'était aussi d'autres situations, et tout lui revient à la surface parce que sa conscience travaille. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes contents d'avoir une conscience? Moi je dis merci Seigneur parce qu'il a mis en nous un petit moteur, un petit engin, un petit truc qui s'appelle une conscience, et il a mis ça dans le cœur de chaque être humain pour rappeler qu'il y a des choses à régler. Et qu'un jour ou l'autre, nous devrons rendre compte. Il vaut mieux régler ça quand on est vivant ici-bas, quand on peut le faire, plutôt que d'être traduit en jugement sans pouvoir réagir, n'est-ce pas vrai? Donc, sa conscience va lui montrer quelque chose doit être réglé. Et le péché et les remords du passé subsistent à l'érosion du temps. Hein. On dit souvent, mais le temps passe, ça va s'oublier avec le temps. Pas toujours, non, pas toujours. Le péché n'a rien perdu de sa fraîcheur dans la vie de Jacob. Et il va dire au verset 12 du chapitre 32, il va dire dans sa prière, parce que Jacob va commencer à prier. Il va prier, Seigneur, il va prier. Il est dans cette peur, il dit, Seigneur, au secours. Seigneur, tu es le Dieu de mon père Abraham, de mon père Isaac. Tu m'as pourtant dit, retourne chez toi. Seigneur, je suis trop petit pour toute la bonté que tu as montrée à mon égard. Il est dans une phase spirituelle où il s'accroche à Dieu. Il dit, Seigneur, il faut que tu m'aides maintenant. Mais il va prier ceci, verset 12, délivre-moi de la main de mon frère. Est-ce que Dieu va l'exaucer? Est-ce que Dieu va le délivrer de la main de son frère? Non, mais il va le réconcilier. Nous aimerions parfois être délivrés de la main de nos frères. Vrai ou faux? Nous aimerions parfois que ce soit l'autre qui change. Seigneur, change ma femme. C'est plus celle que j'ai mariée il y a 20 ans. Seigneur, transforme mon mari. Il a tellement changé, il a tellement de défauts, il faut que... Change-le, Seigneur, je supporte plus. Change ce frère, cette sœur dans l'église, Seigneur, je supporte pas. Change-le, Seigneur. Et Dieu nous dit, je te changerai toi. Je m'occupe des autres, je m'occupe maintenant de toi. Et il n'a pas été exaucé quand il a prié, délivre-moi de la main de mon frère. Et Jacob est en train de changer déjà parce que il est tout petit devant son frère, il est humble, il considère son frère comme étant supérieur à lui-même, il va se prosterner 7 fois juste après, vous le verrez. Et il reconnaît ce qu'il y a à reconnaître. Il est maintenant pour la paix, il veut apaiser la colère de son frère. Il est très fin dans cette approche, il va envoyer des cadeaux. Pour le calmer, il va envoyer un groupe, puis un autre groupe, il va subdiviser toute sa grande famille pour qu'il essaie de mesurer, de faire ce qu'il peut, il essaie de se défendre, il essaie d'apaiser humainement tout ça, mais c'est limité, il sait que ce n'est pas tout, ça ne peut pas marcher entièrement comme ça, ça ne suffit pas. Et le verset 25, quand j'ai commencé à lire tout à l'heure, nous dit « Jacob resta seul ». Jacob resta seul. Savez-vous que les grands enseignements de la vie, les grands changements de vie se passent quand nous sommes tout seuls. Quand nous sommes tout seuls. Ah, j'aimerais que tout se passe dans l'église. J'aimerais que tout se passe dans la louange. J'aimerais que tout se passe dans les conditions les meilleures. Mais Dieu a des rendez-vous avec nous lorsque nous sommes tout seuls. Tout seuls. Tout seuls peut-être... Dans la nuit, sur notre lit, en train de réfléchir. Nous sommes quelque part peut-être en train d'arpenter, faire les 100 mètres dans la nature, en train de parler avec Dieu. Nous sommes seuls. Et peut-être c'est là qu'il y a des rendez-vous. La nuit tombe, Jacob est seul. Il a envoyé sa femme, ses enfants sont devant lui, les troupeaux aussi. Il entend le bêlement des brebis et... Il entend les enfants qui lui disent « Papa, au revoir !» Et lui reste seul. Il est comme retenu par une main mystérieuse. Il ne sait pas pourquoi. Il ne passera pas ce gué du Jabbok. Il doit passer cette rivière pour entrer sur le territoire d'Ésaü. Et il a envoyé tout le monde, mais lui, on ne sait pas pourquoi, mais il est comme retenu. Il est comme une main invisible qui dit « Maintenant, Jacob... Maintenant, tu vas vivre une nuit déterminante pour ta vie. Maintenant, il va se passer quelque chose de divin, de surnaturel, de puissant. Maintenant, on va commencer bientôt quelque chose. Il pressent, il appréhende, il a peur, mais il est comme retenu parce que une bataille va commencer. La bagarre va s'enclencher malgré lui. Soudain, il est saisi par une force invisible. Il ne sait pas qui c'est, ce que c'est et pourquoi. Avez-vous déjà vécu cela? Vous êtes dans un combat, vous êtes tout à coup dans un combat, vous ne savez pas comment ça a commencé, vous ne comprenez pas pourquoi les choses se passent comme ça, et vous ne savez même pas contre qui vous êtes en train de vous battre réellement. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que vous avez déjà vécu des combats de ce type où c'est en train de se bagarrer dans vos pensées, dans votre cœur, vous êtes en train de vous battre avec vos arguments, vous argumentez, vous contre-argumentez, vous dites les réponses, vous dites, vous avez les questions, vous avez les réponses, et tout ça se bagarre en vous, et vous êtes en train de lutter, vous ne savez pas très bien contre qui, contre quoi, mais vous êtes dedans. On est en plein dedans. C'est le combat peut-être entre la volonté de Dieu et sa propre volonté. Seigneur, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que vraiment tu me demandes de faire ça? Est-ce que vraiment tu as dit ça? Et on essaye d'esquiver la volonté de Dieu, on essaye d'argumenter pour ne pas la faire. Et ce combat est celui que Jésus a connu à Golgotha, à Gethsémané. Il a dit, Père, il y a quand même une solution. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que cette coupe de souffrance horrible? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Et finalement, Père, que ta volonté soit faite. Cette bataille, Jacob l'a connue, Jésus l'a connue, et nous la connaissons aussi. Pour la volonté de Dieu ou par sa propre volonté. On argumente, on se bat, notre chair réagit. C'est le combat contre la chair, avec nos idées, nos choix. On argumente. On n'a pas envie de rencontrer cette personne comme Jacob ne veut pas rencontrer son frère ennemi. Il voudrait dormir, mais c'est pas possible. Il semble que pardonner, c'est pas non plus vraiment facile. Il se bat, et on se bat avec l'amertume, on se bat avec des pensées de haine, de vengeance, de colère. Est-ce que vous avez vécu cela? Nous passons tous un jour ou l'autre par ce genre de combat qui nous tombe dessus. Attendez, ce n'est pas fini. Le combat aussi contre un passé non réglé, contre des choses qui remontent à la surface et qui commencent à me travailler et qui me disent, ce n'est pas fini cette histoire, il y a quelque chose encore à régler. Des questions, des tendances, des tentations contre lesquelles on se bat. Et la Bible dit encore, par rapport à ce moment précis, dans Osée, chapitre 12, verset 5. Osée 12, 5. Il nous est dit, « Il lutta avec l'ange, parce qu'il combat contre un ange, et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. » Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Donc il a pleuré dans ce moment. Il a craqué dans ce moment. Il s'est complètement investi dans ce combat. Il a été complètement brisé dans ce combat. Il a pleuré, il a prié. Il reconnaissait les nombreuses bénédictions reçues. Mais maintenant, il va faire face à un changement. Ce combat, mes amis, qui a touché Jacob et qui nous touche, ce n'est pas un combat pour la destruction. Ce n'est pas un combat pour la destruction, c'est un combat pour la bénédiction. Il n'est pas facile de voir que l'adversaire avec lequel on est en train de se battre peut devenir une source de bénédiction. Mais ce ne sera plus comme les bénédictions que Jacob a connues. Il a reçu des troupeaux, il a reçu plein de choses, il a été gardé, il a réussi. Ce n'est pas la bénédiction de la réussite, de l'accroissement. Mais c'est la bénédiction de la diminution. C'est la bénédiction du brisement. C'est la bénédiction de « il faut que lui grandisse et que je diminue. Il faut que ma chair soit crucifiée pour que la vie de résurrection se manifeste. » Ça, c'est une nouvelle bénédiction, c'est un nouveau genre de bénédiction. Et dans ce combat, l'adversaire de Jacob va être celui qui va le bénir. Et Jacob va s'en rendre compte. Il va dire dans ce combat, qui dure et qui dure et qui dure toute la nuit, l'aurore arrive, il est à la fin de la nuit, il est fatigué, il est épuisé, et il réalise, en disant cette phrase que j'ai soulignée 3 fois dans ma Bible, « Je ne te laisserai pas, dites-moi la suite, tant que tu ne m'es béni. Je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. » Il a toujours voulu la bénédiction, je l'ai dit. Il a toujours voulu la bénédiction. Mais maintenant, c'est un nouveau genre de bénédiction. C'est la bénédiction de la transformation et d'une véritable rencontre avec Dieu qui nous transforme. Parce que son nom va être changé. Sa nature va être changée. Frères et sœurs, n'oubliez pas le message de ce matin. La véritable bénédiction, c'est la bénédiction d'être transformé. Ce n'est pas seulement recevoir des bénédictions, recevoir des choses de Dieu. Ce n'est pas seulement avoir la réussite, le bonheur et que tout marche. Je suis béni. Souvent on dit ça, je suis béni parce que tout roule. Mais la véritable bénédiction qui se passe ici, et qui est vraiment un croisement, qui est un changement, c'est la bénédiction de la diminution de la chair et de l'augmentation de la vie spirituelle. La véritable bénédiction, c'est que nous soyons changés à l'image de Christ. C'est que nous puissions passer par la croix et vraiment comprendre ce que ça veut dire pour passer au matin de Pâques, pour ressusciter en nouveauté de vie, pour être transformés. La nature charnelle de Jacob avait besoin, dans la vie de ce patriarche, modèle dans beaucoup de domaines, avait besoin d'être changée. Et notre nature, frères et sœurs, la Bible dit, notre nature charnelle n'héritera pas le ciel. La chair et le sang n'entrera pas dans le ciel. Notre caractère humain, notre nature humaine, si elle n'est pas transformée, elle ne passera pas la rampe de l'éternité. Mais Jésus a tout fait, en suffisance et pleinement et totalement, parfaitement, pour que vous et moi, nous soyons changés, transformés. Non seulement d'une manière magique, au dernier moment, comme ça, boum, on est changé complètement, mais que dans notre chemin terrestre, nous soyons d'accord de nous laisser transformer à chaque fois que le Seigneur a un rendez-vous avec nous. Est-ce que vous comprenez ce que j'aimerais vous dire ce matin? Le texte est tellement clair. Le texte est tellement clair. Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni dans ce sens-là. Est-ce que quelqu'un ce matin voudrait dire cette même prière? Je ne te laisserai pas tant que tu m'aies béni dans le sens du changement. Il va accepter que quelque chose se passe et à la fin du combat, regardez ce qui va se passer. À la fin du combat, il est tellement fatigué, il est tellement en train de lutter, il a essayé toutes les prises de judo, de karaté, il a tout essayé dans tout ce qu'il pouvait, mais il s'en sort pas. Ses moyens humains sont pas suffisants, il n'arrive pas. Et à un moment donné, son adversaire devient sa bénédiction parce qu'il va l'affaiblir. Clac. Un coup dans la hanche, c'est quoi? C'est le siège de la force ici. La Bible dit que c'est les hanches ici, c'est le siège de la force. Donc il craque, il tombe. Et en tombant, il s'agrippe à son adversaire. Je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. Il s'agrippe, il s'accroche à lui, il plante ses griffes dans son dos et il s'accroche à lui. Je ne te lâche plus. Il faut que tu me bénisses, sinon c'est raté pour moi. Est-ce que nous avons ce matin cette détermination de dire, Seigneur, je capitule devant toi, je craque devant toi, je suis d'accord même que tu me donnes un coup, et si ça fait mal, je sais que je dois diminuer, que tu dois grandir. Je sais que tu as le moyen et la capacité pour me bénir parfaitement, pleinement. Je sais que la vie du disciple, ça passe par là, et je ne veux pas être comme Jacob qui essaye de fuir. Et ce sera ma conclusion, mes amis. Nous cherchons des fois justement à fuir là. On aimerait quand même sauver sa face. Vous savez, Jacob, il était dos contre le mur. Il ne pouvait plus retourner chez Laban. Lisez le texte qui précède. Ils avaient fait un contrat. Ils avaient dit, jusque-là, tu peux revenir, mais pas plus loin. Jacob, maintenant, on se sépare. Hein? Il était dos contre le mur. Il ne pouvait plus retourner en arrière. Et il ne pouvait pas vraiment confronter le présent, l'avenir non plus. Il était coincé. Il pouvait plus ni reculer ni avancer. C'était un rendez-vous divin. Et Dieu nous place parfois dans des situations comme ça où nous ne pouvons plus reculer, plus avancer. Parce qu'il y a un rendez-vous auquel il faut faire face. Et on aimerait échapper. On aimerait trouver une porte de sortie. On aimerait, comme on dit d'une manière populaire, trouver un trou de souris pour s'échapper. Trouver un souterrain secret pour s'en aller. Et échapper à tout cela. Mais Dieu nous dit, j'ai un rendez-vous avec toi. Je me souviens de plusieurs situations. Et je me souviens au début de mon ministère à Vevey. Il y a eu ce moment-là, plus ou moins, où s'est montré à un moment donné plusieurs situations qui ont coïncidé et qui m'ont montré, soit maintenant il y a un changement, soit tu vas partir. Et là, j'ai pensé à une chose à laquelle je pense encore maintenant. J'ai dit, je ne laisserai pas le diable m'empêcher de faire la volonté de Dieu. Et je ne vais pas quitter juste à cause d'un problème que je ne veux pas régler. Bon, il n'y avait pas que moi qui devais régler des choses, il y avait différentes choses qui devaient se régler. Mais j'étais comme ça quelque part, soit je m'en vais, et puis voilà, j'échappe, je prends d'autres directions, ou soit je confronte et je change. Et je sentais l'Esprit de Dieu me dire, mais descends, diminue, reconnais ce qu'il y a à reconnaître, fais ce qu'il y a à faire, et laisse-moi faire. Et je peux vous dire que Dieu a retourné la situation, simplement parce qu'il a pris lui-même en main toute chose. Lorsque Jacob va être brisé, va recevoir la bénédiction, va avoir le changement, il est d'accord de passer ce cap du combat, eh bien, lisez la suite. Il s'est occupé du frère Ésaü. Ésaü était là, les bras ouverts. Lui qui était auparavant un ennemi, considéré comme un ennemi, il est là, les bras ouverts, et il va l'accueillir d'une manière étonnante et belle. Parce que Dieu s'occupe de nos affaires quand nous faisons sa volonté. Le secret, c'est l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Le secret, ce n'est pas de se raidir et de trouver une échappatoire. Le secret, c'est dire, Seigneur, ok, si je dois vivre un brisement, je le vivrai. Parce que je sais que là derrière se cache une bénédiction. Le brisement, l'affaiblissement, la chair qui reçoit un coup, elle n'engendre que la mort et elle ne peut pas produire la paix, elle ne peut rien produire de bon. Mais je sais que là derrière se cache la vie de résurrection. Là derrière se cache la bénédiction d'une transformation. Et je vais m'agripper à mon adversaire, je vais m'agripper au Seigneur pour recevoir la bénédiction de la transformation. Et Jacob va dire, mais quel est ton nom? Mais il n'a pas besoin de savoir quel est le nom, c'est le Seigneur qui bénit, c'est le même. Mais toi Jacob, qui es-tu? Je suis Jacob, le supplanteur, le trompeur. Il déclare son identité mauvaise pour recevoir la nouvelle identité. Frères et sœurs, ce matin, si vous déclarez votre identité qui a besoin d'être changée, Dieu va la changer. Dieu va faire son travail. Dieu va continuer à faire son travail dans ce sens-là. Mais nous devons déclarer notre identité. Je suis Jacob, je suis celui qui toujours à nouveau me heurte contre ma nature, qui a besoin d'être changé, mais qui ne le veut pas. Donc je passe par le combat, je saisis la bénédiction de la transformation. C'est ça que j'avais à cœur de vous dire ce matin. C'est ça que j'avais à cœur de vous dire ce matin. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Romains 8, à tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et le patriarche a été changé. Oh, vous savez, Jacob, dans la suite, il a encore eu des problèmes. Il a encore souffert de la part de ses fils, et vous connaissez l'histoire. Mais Jacob, la bénédiction de la vie nouvelle qu'il a reçue, se démontre dans la suite, et jusqu'au dernier souffle de sa vie terrestre, Jacob va prophétiser sur ses 12 fils des prophéties puissantes. Il va se coucher dans son lit et il est parti. Comme un avion qui décolle, hop, il est parti dans la gloire. Il est parti dans la gloire avec l'onction du Saint-Esprit parce qu'il avait été d'accord de recevoir la bénédiction pour être transformé.